Liberté à tous. Bonsoir aussi. Je rappelle quand même que dans l'émission La parole est à vous est consacrée aujourd'hui à un magazine à l'initiative d'Ademat,
oui.
Avec le docteur Jean Tisserand, voilà.
Bonsoir Michel.
Et on va parler aujourd'hui du mois sans alcool.
Oui, Dry January. Dry January.
Dry,
c'est vrai. C'est en anglais. Au mois sans alcool.
On ne peut pas utiliser que de l'anglais. Hein. C'est vrai, madame. C'est notre civilisation qui veut ça. D'abord, avant de commencer,
un petit rappel.
Bonjour. Et puis, notre partenaire, Ademat H,
oui.
Pour ce magazine santé, dont l'Assemblée Générale va se tenir à Saint-Étienne-de-l'Hermont.
Vendredi 23, oui.
Ah, justement.
Voilà, oui.
À 20h. À deux petits
Oui, tout près,
finalement.
Tout près, oui. C'est près de l'église, derrière
Ademat,
l'église.
Ben,
oui.
C'est ce moment où jamais de faire le point, parce que l'année passée a été fertile en événements, quand même.
Oui.
Et puis, il y a eu quand même le nouveau directeur qui a été nommé pour Épinal Remiremont. Et donc, aujourd'hui, les urgences, les problèmes restent en suspens. Et je crois qu'il y aura une Assemblée Générale quand même qui abordera tous ces problèmes pour l'avenir, en sachant bien que, de toute façon, on a quand même
une baisse de natalité en France, mais les accouchements ont augmenté un petit peu à la maternité de Remiremont, voilà.
Ah ben oui.
Donc c'est une bonne nouvelle. Donc c'est un service qui fonctionne bien et il faut continuer d'accoucher à Remiremont. Voilà. C'est notre cheval de bataille depuis 10 ans maintenant. Ça fait 10 ans que la DEMAT.
10 ans maintenant.
10 ans maintenant que la DEMAT a empêché une fermeture imminente de la maternité de Remiremont. Et elle est toujours là.
Et puis aujourd'hui, malgré qu'on nous qualifie de fascistes, parce que la fermeture de la maternité est toujours d'actualité. Hein,
oui,
c'est pas au grand jour, mais il n'empêche quand même qu'il y a des circulaires, il y a des actions qui se mènent encore aujourd'hui pour
essayer pour de fermer les petits services, voilà.
Pour les petits services, moins de
1000 accouchements.
Voilà.
Oui. Ils visent
il faut quand même qu'on
moins de 1000, quoi.
Il faut quand même qu'on en parle. Qu'on en parle, parce que si on n'est pas vigilant, effectivement, la maternité sera encore, peut-être dans l'année qui 2026, des problèmes qui peuvent
nous resterons vigilants
à nouveau, et puis effectivement,
nous resterons vigilants, voilà.
Il faut être très vigilant cette année, et malgré des propres rassurants des uns et des autres, il y a toujours des projets au niveau de l'ARS et du ministère
bien sûr,
supprimer les maternités.
De moins de 1000
alors que
je rappelle toujours que c'est un territoire très étendu. Il y a des gens qui sont déjà à une bonne demi-heure de Remiremont, en particulier les gens du nord de la Haute-Saône, les gens des Fonds de Vallée, Gérardmer, La Bresse, le Tillot, Bussan, sont déjà à une demi-heure de Remiremont. Et si on fermait Remiremont, ils vont se trouver à une heure d'Épinal, de toute maternité.
Il n'y aura plus qu'une solution, accoucher dans l'ambulance des pompiers, c'est ça.
Oui, mais ça, c'est...
Ça risque, c'est déjà arrivé par le passé. Oui, on va peut-être revenir à ce temps-là.
C'est des accouchements à risque. C'est des accouchements à risque pour le bébé.
Et puis c'est un risque, c'est sûr.
Non,
il faut accoucher en maternité. Et non pas éloigner
les gens des structures de soins dans
une maternité quand même.
Oui, au prix d'une détérioration de l'accès aux soins et des résultats avec des accouchements à domicile ou des accouchements dans les moyens de transport qui feront des morts, voilà. C'est inacceptable.
J'ai l'impression de revenir au moins 100 ans en arrière.
Oui, exactement. Bon, on va parler un petit peu d'alcool.
Ah oui, alors,
l'alcool.
Le sujet abordé aujourd'hui, à l'initiative de Jean,
c'est le mois de janvier.
Docteur Jean Tisserand, c'est le mois sans alcool.
Le mois sans alcool, oui.
Et donc, les enjeux derrière ce mois sans alcool, parce que bien sûr, on peut toujours porter sagement à l'appréciation du public en disant, ben oui, c'est la prévention, etc. Mais il faut quand même justement qu'il y ait un bon accompagnement, une bonne information par rapport à ça. Et puis, surtout, sur les enjeux de l'alcool, hein, on en a parlé
l'année dernière.
Y compris. D'ailleurs, avec notre ami Jean-Joseph, le docteur Maglia.
Il y a un an.
Il y a un an, on en parlait justement. Mais on a l'impression quand même que la lutte contre l'alcoolisme marque un peu le pas. On n'a pas l'impression véritablement que les pouvoirs publics...
C'est un phénomène social et économique. Voilà.
Oui.
Et c'est comme un problème de santé publique énorme. Hein. L'alcool, c'est 42 000 morts par an. 10 fois plus que les accidents de la route. C'est quand même important. Hein. C'est quand même, et c'est une institution en France. Voilà.
Justement.
L'alcool. Alors, le mois sans alcool.
J'ai l'impression quand même que l'alcoolisme, ça n'a pas beaucoup progressé. Enfin, depuis des années.
Il y a une petite baisse de la consommation. En 5 ans, il y a 5% de baisse de consommation d'alcool en France, quand même.
Quel public baisse ?
Alors, qu'est-ce qui baisse ? Il y a à peu près 10% des gens qui consomment de l'alcool tous les jours, même pas forcément à des doses sans ébriété, à des doses relativement modestes.
Par exemple ?
Un verre par jour augmente le risque de cancer de 10%. Donc,
quel type de cancer, Jean ?
Alors, tous les cancers, mais surtout les cancers de la langue, de la gorge, de l'œsophage, des cancers du foie, des cancers du pancréas, et puis des cancers colorectaux, digestifs, et puis des cancers du sein chez la femme. Une femme qui boit un verre d'alcool tous les jours, elle augmente son risque de cancer.
Alors, quelle sorte d'alcool ?
De 12%. 12% pour un verre. Et 24% pour deux verres. Le risque de faire un cancer du sein...
Quel que soit l'alcool, c'est-à-dire...
Oui. Un verre d'alcool, c'est soit une bière, soit un verre de vin rouge, soit un whisky, enfin la dose pour un whisky. Et tout ça, c'est 10 grammes d'alcool. 10 grammes d'alcool par jour. Voilà, c'est suffisant pour augmenter le risque de cancer de tous les cancers. Hein. Alors, Dry January, le mois sans alcool... C'est l'occasion, finalement, c'est d'arrêter un petit peu l'alcool sans discrimination. Parce que c'est conseillé pour tout le monde, y compris les gens qui boivent qu'une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Quoi. Donc ça permet de tester un petit peu sa sensibilité, son addiction à l'alcool. Si vous arrêtez de boire complètement au mois de janvier et que vous ne vous sentez pas bien, c'est peut-être que vous êtes en addiction et en besoin d'alcool.
Mais est-ce qu'on peut mesurer cette addiction à l'alcool ?
Oui. Il y a un test, la classification des maladies internationales a dit qu'on était dépendant de l'alcool si on avait au moins 3 signes parmi les 7 que je vais citer. Alors ces 7 signes, c'est la tolérance, premièrement. La tolérance. Ça consiste, on est obligé d'augmenter les quantités pour avoir le même effet. Ça, c'est un signe. Deuxième signe, c'est le syndrome de sevrage. C'est le fait que quand vous arrêtez de boire de l'alcool, vous n'êtes pas bien dans votre peau. C'est la dépendance physique, syndrome de sevrage. C'est le deuxième. Donc on a dit tolérance, syndrome de sevrage. Troisième signe, c'est l'accoutumance. C'est qu'une substance prise en quantité plus importante ou plus longtemps que ce que la personne n'avait envisagé. Elle avait décidé d'en prendre un peu, puis finalement, elle en prend plus que ce
c'est
que...
C'est un phénomène de dépendance.
Voilà, oui. Et... Quatrième signe, c'est les efforts infructueux de contrôler la dépendance, de contrôler cette dépendance physique. On a beau essayer, on n'y arrive pas. Et puis, cinquième signe, c'est la recherche compulsive du produit, dépendance psychique. Les gens, ils pensent à se procurer de l'alcool, ils ne pensent un peu qu'à ça. Sixième signe, c'est l'abandon d'importantes activités sociales et occupationnelles. Les gens laissent tomber des loisirs, laissent tomber une partie de leur boulot, laissent tomber une partie de leurs relations pour se consacrer à l'alcool, qui prend plus d'importance socialement que tout le reste. Et puis, septième signe, c'est la poursuite de l'utilisation, malgré la connaissance des risques et des problèmes physiques, psychiques constatés, des problèmes sociaux. Et malgré tout, il y a une poursuite de l'utilisation de l'alcool. Quand on a 3 de ces 7 signes-là, ça veut dire qu'on est dépendant à l'alcool. Le mois de janvier est l'occasion d'arrêter un peu l'alcool, même complètement, et de voir ce qui se passe. Si on n'est pas bien dans sa peau, s'il y a 3 de ces 7 signes-là, ça veut dire qu'on est dépendant à l'alcool. La dépendance, c'est... Bon, l'addiction, c'est une conduite qui repose sur une envie répétée, irrépressible de consommer ou de faire quelque chose. Au départ, c'est production de plaisir, stimulation intellectuelle, puis perte de contrôle, état hallucinogène. Parce qu'il n'y a pas que des addictions à l'alcool, il y a des addictions à d'autres substances toxiques. Et poursuite du comportement malgré la connaissance des risques et les conséquences, conséquences médicales et sociales. Et puis souffrance, détresse lors du sevrage. C'est le syndrome de sevrage dont on vient de parler. Les gens ne sont pas bien quand ils arrêtent. Voilà.
À partir de quand le sevrage est nécessaire? Et comment peut-on mettre en œuvre ce sevrage?
On considère qu'il y a addiction et qu'il y a une boisson trop importante à partir de 2 verres par jour, 5 jours par semaine. Donc 10 verres par semaine, c'est la limite, je dirais, pour l'addiction et pour la dépendance à l'alcool. Mais c'est déjà, sur le plan de la santé et des cancers, c'est déjà mauvais à partir d'un verre par jour. Voilà. Il n'y a pas de dose limite inférieure.
Que le grand public ignore complètement, finalement.
Totalement, totalement. Alors, une chose aussi que le grand public ignore totalement, c'est qu'on dit qu'il ne faut pas donner ni faire goûter d'alcool aux enfants.
Et oui.
Parce que ça met en place des dépendances pour plus tard, et c'est des gens qui seront beaucoup plus souvent... On multiplie par 4 l'alcoolisme de ce futur enfant. Donc, on ne goûte pas d'alcool quand on est mineur. Et alors... Je vais me faire peut-être agonir.
Jusqu'à quel âge?
Alors, c'est là qu'il y a des... C'est récent de cette année. On sait que le binge drinking, donc l'alcoolisme aigu, à raison de plus de 6 verres par occasion, qui entraîne une ébriété forte, à partir de 2 épisodes de ce type d'ébriété aiguë, chez les jeunes de moins de 25 ans, on détériore la qualité des connexions entre les neurones cérébraux. Donc on a des lésions cérébrales et du tronc cérébral, du cervelet, qui existent très rapidement quand ce type d'alcoolisme existe avant 25 ans. C'est une catastrophe. Parce qu'on sait que 25% des jeunes...
C'est-à-dire pas d'alcool du tout?
Voilà, il ne faudrait pas d'alcool du tout. Et c'est prouvé médicalement. Et socialement, je sais que je dis une hérésie, je vais me faire crier dessus, vous vous rendez compte. La maturité du cerveau, c'est 25 ans. Avant 25 ans, l'alcool détériore les connexions entre les neurones cérébraux. Et de manière définitive. Et ça, c'était...
Définitive?
C'était pas connu, oui, c'était pas connu. Oui. Et c'était pas trop connu. Je suis désolé, mais c'est une vérité médicale. Alors, on commence l'alcool par simple plaisir, pour la récompense cérébrale, par faire la fête, etc. On prend des habitudes, c'est un automatisme mental. Et puis, on évite les conséquences de la privation, donc on continue. Et puis, il y a une perte de contrôle, un besoin compulsif. Voilà, et c'est une pathologie d'installation progressive avec des rechutes dans le temps.
Mais disons, dans un pays comme la France...
qui est le premier producteur de vin.
Eh oui, au monde, de vin surtout.
Avec l'Italie. Une année sur deux, c'est l'Italie ou la France. Voilà. Alors, une bonne nouvelle quand même, c'est-à-dire qu'on a baissé nos quantités d'alcool en 5 ans. On est passé de 10,7 litres d'alcool pur par Français et par an pour les Français de plus de 15 ans. On est descendu à 9,75. Et on est à peu près au 20e rang en Europe. Les premiers rangs, c'est la Pologne, c'est la Lituanie, c'est la Roumanie. Et au monde, c'est la Biélorussie qui boit le plus. Voilà. Mais dans les années 50-60, on buvait 27 litres d'alcool pur par Français et par an. Donc on est à 9,75 litres d'alcool pur par Français et par an.
On réécrit la sommoire de Miguel Zola.
Oui.
Enfin oui, c'était pas du vin, c'était.
Alors un verre d'absinthe d'alcool. À cette époque. Quel que soit le type, les verres d'alcool, c'est 10 grammes d'alcool. Alors Autre chose, un verre d'alcool de 10 grammes d'alcool augmente l'alcoolémie sanguine entre de 0,20 à 0,30 grammes. Et pour rouler sur la route, il faut moins de 0,50 grammes. Donc à partir de deux verres, vous pouvez être en infraction. Voilà.
Eh oui.
Il y a 3,5% des contrôles routiers qui sont positifs. Il y en a 350 000 positifs au bord de la route en soufflant là. Dans le ballon.
Et là encore,
l'alcoolémie limite, c'est 0,5 g, c'est-à-dire 0,5 g d'alcool par litre de sang, ou 25 mg d'alcool par litre d'air expiré à l'éthylotest. Et pour les gens qui ont un permis probatoire, c'est 0,20 g. C'est beaucoup moins. Hein. De même que les chauffeurs de transport en commun.
Et oui.
Et également pour les gens qui ont été punis, qui ont été condamnés pour alcool et qui ont dû installer un éthylomètre dans leur voiture, ils sont limités à 0,20 g. Voilà. Et
donc, d'ailleurs, il y a des pays d'Europe, ça.
Où c'est zéro.
C'est zéro.
Ouais, oui.
C'est même zéro, hein, parce mais que là, zéro... pour la conduite...
D'après ce que j'ai dit tout à l'heure, un verre d'alcool de 10 grammes fait monter l'alcoolémie à 0,20 g à 0,30 g. Donc, dès un verre, ces gens-là sont au-dessus de la dose de 0,20 g.
Et puis, l'élimination par le circuit naturel de l'organisme, c'est pas évident non plus.
C'est pas instantané.
Et puis, pour les femmes, c'est encore... Alors, moins évident.
C'est moins. Les femmes sont plus sensibles à l'alcool.
Et hein. Oui.
On a dit les doses qui faisaient monter l'alcoolémie. Et l'alcoolémie est maximum entre 15 et 45 minutes si vous êtes à jeun. Et elle est maximum entre 1 heure et 1 heure et demie si vous prenez l'alcool au cours d'un repas. Et la baisse de l'alcoolémie spontanée, c'est 0,15 g. Par heure. Donc ça descend très doucement quand on a pu. Et sur la route, c'est...
Et sur la route en particulier, voilà. Et pas seulement,
d'ailleurs. C'est un quart des morts sur la route. Hein. Un tiers des morts sur la route. Et un quart de la mortalité entre 18 et 25 ans, c'est l'alcool. Ça, c'est, je vous assomme un petit peu avec tous ces chiffres, mais c'est des chiffres qui sont considérables et qui amènent à réfléchir.
On va y revenir
voilà.
À ces notions, mais après une pause musicale, bien entendu. Merci, Lou.
Je te veux si tu veux de moi.
Voilà.
Eh bien voilà, c'était ouais. Daniel Balavoine, elle a dit ça, hein, parce que c'était aussi, et c'est un peu d'actualité, un chant contre le racisme
ouais,
hein, à l'époque.
Ouais, ouais, ouais.
Parce que vraiment, et on pourrait s'en servir encore aujourd'hui comme ouais. symbole. Hein, bon, c'est vrai que c'était aussi dans le cadre de Daniel Balavoine, c'est-à-dire qu'il a mis aussi l'organisation du Dakar, avec ce que ça signifiait comme souvenir quand même, en particulier ben, que Daniel Balavoine était pris dans un accident d'hélicoptère qui a mis fin à sa vie. Voilà.
Bon, on continue avec l'alcool.
On continue, allez, on reprend l'antenne avec l'alcool.
La consommation des Français, on a dit 9,75 litres par an, soit une part d'alcool pur par Français de plus de 15 ans par an, soit une baisse de 5,8% en 5 ans, ce qui est quand même encourageant. 8% des Français consomment quotidiennement de l'alcool, hein, et 20 à 25% des adultes ont une consommation à risque, c'est-à-dire supérieure à 2 verres par jour, 5 jours par semaine. Plus de 10 verres par semaine. 20 à 25% de la population française. Hein. C'est quand même un problème considérable.
Même si c'est du vin, même oui. si c'est du vin oui. un peu alcoolisé.
Oui, oui, oui. Oui. Parce que les quantités, une bière, un verre à bière, c'est pas un verre à whisky, quoi. Un verre à whisky, c'est 2 cm de whisky. Un verre à bière, c'est un grand verre de 30 ml. Et un verre de vin, c'est intermédiaire, quoi. C'est le ballon, quoi. Ça fait 15-20 ml, quoi. C'est un petit peu moins. Et donc, on considère qu'il y a dépendance à partir de 10 verres par semaine, quoi. Et c'est 20 à 25% de la population française. D'où l'intérêt de se tester un petit peu dans ce mois de janvier, d'arrêter...
Quel que soit l'âge, où il y a des oui. statistiques alors, suivant l'âge aussi.
Alors, les jeunes boivent moins de manière chronique tous les jours. Hein. Seulement, je crois, 2 à 5% des jeunes boivent tous les jours. Par contre, c'est les plus âgés. Les gens de 50 à plus de 60 ans et plus de 50 ans, surtout les plus de 65 ans, boivent du vin tous les jours. Et ces gens-là sont 20%, 23% à boire du vin tous les jours. Mais comme ces
gens... Ça a une influence sur la durée de vie ?
Oui, 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 oui. C'est une cause de mortalité prématurée. C'est la deuxième cause de mortalité prématurée. Si vous êtes hospitalisé pour des problèmes d'alcoolisme, problèmes de foie, problèmes graves, la durée de vie moyenne, c'est 55 à 65 ans. Il y a un raccourcissement de la durée de vie. On en parlera encore un petit peu après. Je voudrais parler aussi ici... assez rapidement, parce que j'en ai déjà largement parlé, c'est que les femmes enceintes ne doivent pas boire d'alcool du tout, du tout, du tout.
Ah oui, ça tu l'as rappelé dans les émissions, justement. Et par expérience, toi, en tant praticien hospitalier, oui. gynéco...
Ça donne des fausses couches, des accouchements prématurés, des retards de croissance... important, c'est-à-dire des bébés qui font 1,5 kg, 1,2 kg à terme, hein, et des retards de développement du cerveau. C'est surtout ça l'ennui. Des malformations de la face, du cœur, des os, des fentes...
Quelles que soient les doses ?
Quelles que soient les doses. Donc, à partir d'un verre par
jour... C'est vraiment inquiétant, quoi, parce que est-ce que le grand public est vraiment informé quand même des dangers de l'alcool ?
Mal informé, voilà. Et je crois que les professionnels de santé n'en parlent pas assez, même, je crois. L'alcool est une institution. Un verre d'alcool ou un moment d'ébriété dans le premier trimestre de la grossesse peut compromettre le développement cérébral du futur enfant.
Alors, on disait autrefois quand même hein, que de toute façon, quand la femme enceinte boit,
le
bébé boit aussi.
Le fœtus trinque, voilà. Il n'y a pas de seuil minimum. À partir même de très faibles doses, on peut entraîner des altérations du développement cérébral. Hein. Et c'est une dysmorphie faciale, ils ont tous la même tête. Les enfants de femmes qui ont bu de l'alcool, hein, bon, je ne décrirai pas tous les signes parce que c'est un petit peu long. Retard de croissance, on en a parlé. Un petit périmètre crânien et une microcéphalie. Un retard de développement du volume cérébral.
Je vais me tourner vers toi concernant ça. Alors, quand tu as affaire à des pertes urgences, hein, des femmes enceintes, comment à l'échelle d'une maternité, on attire l'attention quand même des femmes sur...
Eh ben, il faut leur en parler. Il faut leur dire que...
C'est-à-dire, pratiquement, est-ce que vous avez le temps véritablement d'en parler?
Il faut dire quelques mots, dire que, surtout dans le premier trimestre, mais tout au long de la grossesse, c'est important de ne pas boire du...
Lors des consultations.
Lors des consultations. Consultations.
C'est abordé chaque fois.
Dès la première consultation, il faut parler tabac et alcool.
Trois mois?
Ben oui, le problème, c'est que la déclaration de grossesse, c'est souvent vers deux mois et demi, trois mois.
Ah, oui.
Il faudrait le faire beaucoup plus tôt. Et c'est peut-être que les généralistes devraient en parler davantage. Et ça donne des...
Mais c'est-à-dire que une femme enceinte peut être d'avoir des consultations à la maternité.
Alors, il y a des consultations d'alcoolologie. Hein, oui, il faut... S'il y a une dépendance, il faut absolument envisager un sevrage.
Même s'il n'y a pas de dépendance?
Même s'il n'y a pas de dépendance, il faut en parler, simplement en parler. Parce que c'est trop facile. C'est
oui, mais est-ce qu'il y a des consultations?
Il n'y a pas de consultation. Il n'y a pas de consultation.
De suffisamment de temps pour...
Non, il n'y a pas de consultation spécialisée.
Eh oui, c'est
mais
ça.
Mais dans les consultations d'obstétrique, de surveillance de grossesse, il faut en parler. Voilà. C'est vite fait hein, de dire quelques mots, dire ben, si on boit, on compromet gravement la santé mentale et cérébrale du nouveau-né. L'alcool en France...
Est-ce que vous avez le temps
Oui, c'est pas un problème de temps.
C'est pas un problème de temps.
Si on dit l'alcool est responsable en France de 1500 arriérations mentales profondes chez les nouveau-nés et chez les enfants qui viennent.
Hein. Et prématurité aussi ?
Prématurité, fausse couche, retard de croissance et malformation. Et surtout, anomalie du développement cérébral.
Et vous est possible d'aborder avec chaque parturiente
Oui, comme je viens de le faire là.
Ah oui.
Il y en a pour 3 minutes, hein, pour 3 minutes pour expliquer qu'on ne boit pas quand on est enceinte. Et demander aux femmes enceintes si elles ont un problème avec l'alcool, voilà. Parce que même s'il y a des risques pour des faibles doses, on peut toujours améliorer les choses en arrêtant. En arrêtant l'alcool.
Alors, les consultations, en ces cas-là, c'est aussi bien une chose.
Hein. Il y a une consultation d'obstétrique tous les mois.
Ah oui
Tous les mois. Déclaration de grossesse, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e mois. Et il est toujours temps de réduire.
La sage-femme aussi est formée pour ça?
Bien sûr. Oui. Bien sûr, oui.
C'est-à-dire qu'on peut s'adresser à la maternité, hein.
Oui.
On voit d'ailleurs l'utiliser de la maternité.
Bien sûr.
La maternité comme celle de Remiremont, qui est véritablement...
Alors, les anomalies du développement cérébral, on a dit petit périmètre crânien, microcéphalie, petit cerveau, hypoplasie du cervelet, donc des troubles de la coordination, des troubles de l'équilibre, anomalie de la motricité fine, des surdités, des troubles de la mobilité des yeux, oculomoteurs, et des troubles de l'apprentissage avec des difficultés scolaires, avec mauvais contrôle des impulsions, troubles de la socialisation, troubles du langage, troubles de la mémoire, troubles de l'attention et troubles du jugement.
Et ça ne peut pas s'améliorer, la langue ?
Non. Il y a 1500 enfants en France qui ont un quotient intellectuel inférieur à 70. C'est une arriération mentale profonde qui est définitive. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il y a des... Tout au long de la grossesse, le cerveau ne cesse de se développer. Il y a des migrations des cellules du cerveau, de la profondeur vers le cortex cérébral, et l'alcool altère ces migrations cérébrales. Qui, normalement, il y a 6 couches de neurones en surface, le cortex, ce qui fait l'intelligence humaine, quoi. Et ces migrations sont altérées par l'alcool. Et les connexions se font mal. C'est ce qu'on appelle les synapses, hein, c'est les connexions entre le neurone, se font mal, se détériorent. Hein, donc, c'est des cellules qui ne sont pas capables de communiquer. Voilà. Et l'évolution, c'est catastrophique. Il y a 40% de troubles du comportement chez le futur enfant. il y a 90% de retard mental, 61% d'abandon scolaire, 60% de délinquance et 58% de problèmes judiciaires avant l'âge de 21 ans. Tout ça parce que la mère peut-être a bu pendant la grossesse et que le fœtus a trinqué. Voilà. Et puis, ce qui est plus grave, c'est que ces enfants vont développer une dépendance à l'alcool. Plus de 85% des enfants seront, 83% exactement, des enfants seront addicts à l'alcool plus tard, quand ils ont été soumis à l'alcool pendant la grossesse. Donc, par pitié, pas d'alcool pendant la grossesse. Zéro alcool. On dit zéro alcool, zéro tabac.
Et pendant cette campagne qui est développée pour de prévention pour le mois sans alcool,
oui,
il y a véritablement l'attention du grand public sur tous ces problèmes-là.
Bah, il faut l'attirer. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. C'est ce que tous les gens qui sont un petit peu dans le milieu médical, dans la surveillance de grossesse ou dans la surveillance des personnes, les médecins traitants, hein, qui, je rappelle que 25% des gens boivent trop en France. Hein, c'est quand même quelque chose de généralisé. Et ce mois de janvier sans alcool, c'est une occasion de se tester. C'est pas quelque chose de accusateur d'une discrimination vis-à-vis des gens qui boivent, parce qu'on conseille à toute la population, même ces gens qui ne boivent pas, de ne pas boire pendant un mois. Donc c'est un phénomène collectif pour essayer de réduire la consommation d'alcool et puis de se tester, de savoir comment on réagit. Si je me sens mal dans ma peau...
Parce que la pression de la publicité,
pression sociale,
des lobbies, oui, est importante. Est-ce que véritablement ce type de campagne a une influence?
Eh ben, je crois que oui. Je crois que oui. En parler, c'est bien. Il faut en parler. Il faut en parler. Il faut sensibiliser la population. Je dirais que la boisson normale, c'est l'eau. Je voudrais reparler du marché de l'alcool en France.
Oui.
Hein? C'est 50 milliards d'euros. Les Français consacrent 1% de leur budget, tout budget confondu, pas seulement de l'alimentation, 1% de leur budget à l'achat d'alcool.
Alors, quelle que soit la sorte de l'alcool, hein, ça peut être...
Vin, bière. Un Français boit 40 litres de vin par an, 32 litres de bière et 5 litres de spiritueux.
Ça mérite d'être signalé, d'être rappelé quand même.
C'est une moyenne. 5 litres de spiritueux, ça veut dire 5 litres de vodka, de whisky, de rhum ou de boisson quand même à 40 degrés. Quoi. C'est quand même pas rien. Quoi. Et puis, il y a quand même des Français qui ne boivent pas. Donc ceux qui boivent, boivent plus que la moyenne. 10%.
Mais le côté convivial de l'alcool...
Je pense qu'on peut faire... un côté convivial avec des boissons non alcoolisées. Il y a des gens qui fabriquent maintenant des mélanges à base de jus de fruits, à base d'épices, qui sont excellents et qui sont non alcoolisés. Il faut cesser que l'alcool soit un acquis social.
Et par rapport au diabète ? Quelle est l'influence de l'alcool sur
pas,
le diabète ?
Pas trop sur le diabète, mais une influence cardiovasculaire sur le cœur.
Oui.
C'est un apport de calories, c'est un facteur d'infarctus, de maladie cardiaque. On pourra citer les chiffres tout à l'heure. Hein, mais 50 milliards, le chiffre d'affaires de l'alcool en France, 700 000 emplois, directs et indirects, et le vin, c'est... On fait 4,2 milliards de litres de vin par an. Et c'est 150 000 emplois et 500 000 emplois dans le vin, simplement.
Ah oui.
Et c'est 13,7 milliards d'exportations. C'est le deuxième poste d'exportation derrière l'aéronautique en France.
Eh oui.
Voilà.
Justement, on va rappeler tous ces chiffres-là après une pause musicale, bien entendu.
Voilà, on nous montre le panneau. Je suis trop bavard. Merci Lou de me rappeler à l'ordre.
On y reviendra.
C'est très sympa.
beau jour ou peut-être une nuit près d'un lac, je m'étais endormie quand soudain, semblant crever le ciel et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Lentement, les ailes déployées, lentement, je le vis tournoyer près de moi, dans un bruissement d'ailes, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleur rubis et des plumes couleur de la nuit. À son front brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec, il a touché ma joue. Dans ma main, il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu, surgissant du passé, il m'était revenu. Dit l'oiseau, on dit emmène-moi, retournons au pays d'autrefois, comme avant, dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles, des étoiles. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, comme avant, sur un nuage. Semblant crever le ciel et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, où était-ce une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi quand soudain, semblant crever le ciel et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, une nuit, près d'un lac, endormi, quand soudain, surgissant de nulle part, surgit un aigle.
Oui. L'antenne après cette pause musicale avec le docteur Jean Tisserand. Donc on va parler aussi des dangers de l'alcool, oui. La nécessité de faire des pauses, comme là, pas dans le mois de janvier, puisque c'est...
Voilà, c'est une pause qui n'est pas stigmatisante, parce que ça s'adresse à tout le monde. Voilà, c'est pas spécialement pour les gens qui boivent, c'est aussi pour ceux qui ne boivent très peu. C'est de faire une pause dans son mois pour se tester et connaître sa dépendance, connaître un petit peu. Et puis.
Et c'est fait ça, ce.
Et puis c'est peut-être se sentir mieux. Et puis, c'est, comment c'est.
Et est-ce que c'est fait ça?
Oui,
vers
oui,
le
oui,
grand
oui,
public.
Oui, bien sûr, je pense que oui. Et c'est l'occasion de se tester et puis de faire une pause de, et puis se sentir mieux, finalement.
Oui.
De se sentir mieux, de pouvoir avoir d'autres activités physiques, etc. De mieux dormir, peut-être, de mieux rêver, d'avoir de renouer des relations sociales qu'on n'avait plus parce qu'on picolait un petit peu, quoi. On parlait du coup de l'alcool.
Ben justement, parlons de relations sociales, parce qu'on a toujours aussi vu les relations sociales aussi par rapport à la consommation d'alcool,
oui.
C'est-à-dire.
Alors, on a dit que l'alcool coûtait 42 000 vies par an, hein, à peu près, mais une perte de qualité de vie, une perte de productivité au boulot, et puis un coût social, comme tu dis, c'est des gens qui perdent souvent leur profession, c'est des chauffeurs qui ne peuvent plus conduire, c'est des gens qui, au travail, ne sont pas fiables, font des bêtises, ou sont en absentéisme inexpliqué parce qu'ils ont picolé toute la nuit et que le lendemain, ils ne peuvent pas aller au boulot. Donc, une perte, je dirais des pertes dans la vie familiale. Ces causes de séparation, de divorce, de violence. L'alcool est un facteur de violence conjugale, de violence d'enfants battus, de femmes battues, des choses comme ça. Quoi. C'est,
là encore, on a des on statistiques est, pour...
Pas de chiffres précis. J'ai pas de chiffres précis des violences liées à l'alcool en intrafamilial. On connaît un petit peu les violences familiales, etc. Mais elles sont largement sous-estimées parce que personne n'en fait la déclaration. Hein. C'est un petit peu un tabou en France. Il y a un coût pour les finances publiques, les soins. C'est 3 milliards de frais d'hospitalisation par an. La prévention, la répression. Et puis, en contrepartie, l'alcool entraînant une mortalité précoce. L'État fait 4 milliards de bénéfices sur les économies sur les retraites. C'est triste, hein, mais
c'est, eh oui.
C'est triste, mais c'est comme ça.
Paris joue à mortalité.
Et puis des recettes fiscales, parce que les alcools forts, les spiritueux sont taxés à 80%, plus la TVA. Donc l'État empoche 4 milliards d'euros. Malgré
mais
tout.
C'est pas, mais pour le vin, non.
5%. Mais malgré tout. Le bilan entre ce qui est gagné avec les retraites, avec les taxes, etc., c'est 100 milliards, 102 à 120 milliards de coûts par an pour la société française. Donc, c'est largement déficitaire. Voilà.
Et oui.
On revient sur les problèmes de santé. Ben, les maladies, il y a des maladies, il y a 200 maladies liées à l'alcool. Essentiellement des maladies digestives qui atteignent le foie, c'est les hépatites alcooliques, les cirrhoses alcooliques. Les fibroses du foie, les cancers du foie. Et quand on a une cirrhose alcoolique, la mortalité à 5 ans, c'est 20 à 60%. C'est une mortalité énorme. D'où une mortalité entre 55 et 65 ans chez les gens qui ont des cirrhoses alcooliques. Je répète toujours, le plus jeune que j'ai vu mourir de cirrhose alcoolique, il avait 27 ans. C'est surprenant hein, quand même. Des maladies neurologiques, des encéphalopathies, des troubles de la mémoire, des affabulations... des déficits neurologiques cérébelleux, du tronc cérébral, des troubles de l'équilibre, des encéphalopathies graves dites de Gaillet-Wernicke parce que l'alcool entraîne des carences en vitamine B1. C'est 20% de mortalité. Ça se traduit par des paralysies des muscles de l'œil, des troubles de l'équilibre, des ataxies. Même quand ils ne sont pas ivres, ils ne tiennent pas debout. Ils ont une marche ébrieuse, ils élargissent leur pas. Et ils steppent, ils marchent avec la pointe des pieds. Et ils ont des troubles de la mémoire importants. Alors quand on a des troubles de la mémoire, ça donne ce qu'on appelle le syndrome de Korsakoff. Hein, c'est-à-dire qu'ils n'enregistrent plus les choses, ils n'ont plus de mémoire. Donc ils affabulent, ils racontent des bêtises. Quoi. Voilà. Et c'est pareil, ça aboutit à des décès fréquents. Maladies cardiovasculaires, hypertension, maladies ischémiques, maladies du coronaire. Les cancers, on en a parlé, 28 000 cancers par an attribuables à l'alcool, dont 16 000 morts. Hein, et des troubles cognitifs. Je passe donc sur les maladies neurologiques, sur les cancers. Donc, alors la mortalité, on a dit 42 000 morts par an. c'est 11% des décès chez l'homme et 4% des décès chez la femme. Mais on ne parle pas assez de tout ça. C'est un fléau. Hein. C'est la troisième cause de mortalité. Deuxième cause de mortalité derrière les cancers.
Il y a des causes économiques pour ne pas en parler. Non oui. Plus. Ouais. Je crois que...
Donc on a dit 16 000 cancers qui décèdent. 9 900 cancers cardiovasculaires sont liés à l'alcool. 6 800 cirrhoses décèdent par an. On ne parle pas des décès par cirrhose, alors qu'on nous parle des 4 500 morts sur la route. C'est 5 400 accidents de la route et suicides, accidents mortels. Donc c'est un tiers des accidents de la route sont liés à l'alcool. Maladies mentales et troubles du comportement. Alors, je voulais revenir sur ce qu'on appelle le French paradoxe. Il était dit qu'à un moment, boire des faibles quantités de vin tous les jours permettait de bien vieillir et d'éviter des maladies cardiovasculaires. C'est totalement faux. C'est faux, prouvé médicalement. Le French paradoxe, comme on disait, c'est quelque chose de faux. Hein. 1,3 verre d'alcool par jour, 1,3, c'est pas beaucoup, hein, 1,3 verre de vin, ça fait 13 grammes d'alcool par jour, c'est plus de 10% de cancer à plus, c'est 1100 morts par an. Donc c'est un fléau, c'est un fléau. Métabolisme de l'alcool, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, des éthylotests. Si vous avez 0,5 g à 0,8 g d'alcool dans le sang, vous multipliez vos accidents de la route par 6.
Hein? Par 6. À ce propos, là, je voudrais me référer à certaines littératures pour les entraîneurs de sport, un entraîneur disant, en gros, boire de l'alcool, c'est comme si on mettait de l'huile sur le feu, quoi.
Oui, alors...
C'est-à-dire, si on pratique un sport de compétition, on doit éviter complètement l'alcool.
Tabac et alcool. Oui. Alors
cet entraîneur avait raison.
Oui. L'alcool, de dire. L'alcool donne un sentiment d'euphorie,
oui.
D'être bien dans sa peau, de tout réussir. Mais en fait, les gens font même, avec des petites doses d'alcool inférieures à 0,3 grammes, ils font les choses plus à l'aise, mais ils se trompent beaucoup plus. Il y a des erreurs. Ce qui explique l'accidentologie.
Et toi-même, quand tu pratiquais un sport, parce que toute ta vie t'as pratiqué oui, du sport, oui. Tu ne buvais jamais d'alcool?
Je bois de l'alcool une fois par mois, maximum, et jamais en état d'ébriété, pas plus d'un verre. Et je ne bois d'alcool que si je suis invité, je prends le premier verre et je m'arrête. Et jamais d'ébriété, voilà. Une fois par mois en moyenne, si je bois 10 fois par an, c'est le maximum, quoi. Je pense que il est maintenant...
Mais entre le pas du tout et puis une consommation très modérée.
Oh. Écoute, c'est sûr qu'il y a...
Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça?
Je pense que si on se sent dépendant, je pense qu'il faut pas boire du tout. Voilà. Je ne suis pas dépendant, j'ai jamais bu vraiment. J'ai toujours... ça m'arrive de boire à Noël, Nouvel An. Hier, on a fait l'anniversaire de ma petite fille qui avait 20 ans. On n'a pas bu d'alcool. Voilà. J'ai pas bu du tout. Au mois de janvier, je ne bois pas. Si je suis invité, qu'il y a de l'alcool, je demanderai plutôt à boire de l'eau gazeuse ou un jus de fruit ou quelque chose comme ça. Et je crois qu'il faut oser. Plus on est à dire, bah, écoute, je préfère pas boire si tu veux. Oui, j'ai fait beaucoup de sport, j'ai joué au foot, j'ai fait du vélo beaucoup. Et ça fait bon ménage.
Du ski?
Du ski, oui. Ouais. Bon, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de dire il faut pas. J'ai pas envie de boire. Voilà.
Voilà. Docteur Jean Tisserand aujourd'hui nous fait vraiment une démonstration sur ce qui.
La boisson normale.
Ce qu'il faut absolument que le grand public sache.
Oui. Les méfaits de l'alcool, les méfaits
les
cachés.
Les méfaits de l'alcool.
Les méfaits qu'on ne dénonce ça, pas. Les méfaits qu'on ne dénonce pas.
La façon dont ça passait aussi.
Oui, oui.
Pour profiter justement de ce mois oui. Sans alcool pour se défaire Et pourquoi pas ne pas boire une goutte d'alcool.
Et puis si on sent mieux,
ensemble.
Au-delà de ce mois,
oui,
il faut continuer.
Alors,
une chose...
C'est un problème de santé publique.
Oui, les gens qui ont été dépendants ne doivent plus boire du tout. Parce qu'ils conservent au niveau du cerveau la dépendance et les récepteurs cérébraux sont prêts à fonctionner du tout. Et ces gens-là ne doivent même pas retoucher la moitié d'un verre d'alcool.
C'est terrible,
mais c'est vrai.
Oui, c'est vrai.
À l'occasion... Une mauvaise occasion, ils boivent un ou deux verres d'alcool alors qu'ils n'ont pas bu depuis 2 ans, ils peuvent replonger.
Et oui.
Parce que l'addiction à l'alcool est faite de rechutes. Donc il ne faut pas tenter le diable, il ne faut plus boire du tout. Je ne vais pas me faire des amis
chez les
marchands de vin, les marchands d'alcool, mais c'est un phénomène social trop grave et ça a trop conséquences sur notre vie en société. Mais on va dans le bon sens. Parce que
On diminue. Une prise de conscience.
Parce que les gens âgés qui buvaient tous les jours.
Cette émission d'aujourd'hui.
C'est le but de cette émission.
Je pense, et hâter à la prise de conscience
du
grand public. Alors, merci. Merci à Jean. On aura l'occasion d'y revenir, mais pas ce mois-ci, parce qu'on peut pas être...
Tous les ans au mois de janvier, comptez sur moi.
Tous les ans au mois de janvier. C'est que le mois de janvier, finalement.
Oui,
d'accord. Voilà, merci Jean. Merci pour cette intervention.
À tous nos auditeurs qui ont eu la patience de m'écouter.
Merci à Desmalt aussi, d'avoir été notre partenaire pour cette émission, pour ce matériel de santé. Et puis, rappel, mais on n'a plus beaucoup de temps, c'est-à-dire que vendredi, c'est l'Assemblée Générale d'ADEMAT.
À Saint-Étienne.
Les 2000 adhérents vont vous déplacer.
Ils sont conviés à Saint-Étienne.
Voilà. À Saint-Étienne, voilà.
Voilà. À 20h.
D'accord, on le rappellera au cours des émissions. Voilà.
Au revoir à tous.
Bonne fin de soirée à toutes et à tous.
Merci à Lou qui a assuré la technique.
Bonne journée. À bientôt.